vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 20 janvier 1946, le départ du général de Gaulle. Le 13 novembre 1945, l'Assemblée constituante désigne à l'unanimité Charles de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française. Deux jours plus tard, Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, est reçu par le nouveau président du Conseil, qui s'est déjà entretenu avec le secrétaire général de la SFIO, Daniel Mayer, et le président du Mouvement des Républicains Populaires, Maurice Schumann. Le général leur expose comment il entend former son gouvernement. Maurice Thorez exige pour les communistes l'un des trois grands ministères, l'intérieur, les affaires étrangères ou la défense nationale. De Gaulle s'oppose à cette injonction. Le 17 novembre, par un discours radiodiffusé, il rend les Français juges et arbitres du conflit. Deux jours plus tard, l'Assemblée constituante vote par 358 voix contre 39 un texte qui lui donne, je cite, « un mandat impératif pour que puisse être formé, dans les délais les plus brefs, un gouvernement composé essentiellement des trois partis, socialistes, communistes et MRP, se partageant équitablement les portefeuilles pour l'application du programme du Conseil national de la résistance. » Charles de Gaulle n'est plus libre. Il est prisonnier du jeu politique. Le 20 novembre, il reçoit à nouveau les représentants des principaux partis. Chacun a le sentiment que la crise est dépassée. Une seule journée suffit pour former le gouvernement. Les communistes, décidés à ne pas rompre avec les socialistes, sont conciliants. Vincent Auriol suggère de séparer le ministère de la Défense nationale en deux départements. L'un chargé des armées est confié à un représentant du MRP, Edmond Michelet. L'autre, chargé de l'armement, est attribué au communiste Charles Tillon. Les communistes obtiennent également les ministères suivants. Industrie et commerce, travail, production industrielle et fonction publique qui est dévolu à Maurice Thorez, promu par ailleurs ministre d'État. Les socialistes se montrent peu exigeants. Ils ne veulent pas de poste de premier plan pour pouvoir se désolidariser, le cas échéant, de l'action gouvernementale. Nous allons pratiquer la politique du strapontin, précise Vincent Auriol. Léon Blum l'approuve. Le 23 novembre, le gouvernement se présente devant l'Assemblée, qui lui accorde sa confiance à l'unanimité. Rapidement, les socialistes passent à l'offensive. Ce changement de stratégie est l'œuvre d'un jeune député du Pas-de-Calais, Guy Mollet. Il condamne l'unité d'action avec les communistes et soupçonne de Gaulle d'être partisan du régime présidentiel. André Philippe, président du groupe parlementaire socialiste, dirige la puissante commission de la Constitution, fonction qui revient de droit. Sous son impulsion, ses membres limitent les prérogatives du futur président de la République. Fonction qui revient de droit, c'est l'avis unanime au général de Gaulle. Le 18 décembre, la commission parlementaire opte pour son élection par l'Assemblée nationale. Elle lui interdit d'assister au Conseil des ministres. Elle lui retire l'exercice du droit de grâce. Le chef de l'État ne préside pas le Conseil de la Défense nationale. C'est une simple potiche. Le 1er janvier 1946, les débats sont rudes à l'Assemblée constituante. De Gaulle se rend au Palais Bourbon dans l'après-midi. La violence des échanges avec les députés socialistes et communistes est extrême. La décision du chef du gouvernement est prise. Il se retire. Il prend tout d'abord des vacances, les premières depuis 10 ans. C'est la retraite au désert, affirme André Malraux. Le 4 janvier, il part avec sa famille au Cap d'Antibes, à la Villa Sous le Vent. Il relit les mémoires du cardinal de Retz et ceux de Saint-Simon. Il rompt tout contact avec la capitale. Rentré à Paris le 14 janvier, il reçoit dès le lendemain Robert Lacoste et se lance dans une violente attaque contre les partis. Il met fin à l'audience par cette phrase « Les Français ont peut-être besoin de plusieurs années de vachardise ». Ensuite, il réunit les commissaires de la République. D'un ton grave, il prévient « Je m'en vais, je me retire, j'ai accompli ma mission ». J'ai remis en place les institutions républicaines, elles n'ont plus qu'à fonctionner. Le 17 janvier, il demande à Louis Jox de convoquer le Conseil des ministres pour le dimanche suivant. La veille, Gaston Palevski fait porter aux membres du gouvernement une convocation dont l'ordre du jour mentionne seulement « communication du général de Gaulle ». Le 20 janvier, à midi précise, le général en uniforme entre dans la prestigieuse salle des armures du ministère de la guerre. Il serre la main des ministres sans leur laisser le temps de s'asseoir. Il prononce une courte allocution. « Ma mission est terminée. J'avais entrepris de libérer la France avec l'armée française sous l'autorité d'un gouvernement français. La France est libérée. Le gouvernement est installé dans la capitale. La légalité républicaine est rétablie. La tâche que je m'étais assignée est accomplie. Le régime exécutif des partis est reparu. Je le réprouve, mais à moins d'établir par la force une dictature dont je ne veux pas et qui sans doute tournerait mal, je n'ai pas les moyens d'empêcher cette expérience. L'action que vous menez à l'intérieur du gouvernement ne correspond pas à l'idée que je me fais de la solidarité gouvernementale nécessaire à l'autorité de l'État. Vous passez votre temps, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, à vous manger la laine sur le dos, vous épousez les querelles de vos partis respectifs, ce n'est pas ainsi que je comprends les choses, il me faut donc me retirer. De Gaulle quitte la salle, serre les mains de ses collaborateurs et s'en va. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver la chronique littéraire « Un jour, trois livres » qui a été préparée comme chaque semaine par Emmanuel. C'est Claude Nougaro qui nous accompagne en chanson dans cette émission Historama. Nous écoutons l'un de ses premier succès, c'était en 1963, Cécile, ma fille.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile. Avec ses arguments de te faire un papa, Cécile, ma fille. Quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon. Et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici, moi, Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est nés à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles, j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile, de la brune gagnée à la blonde perdue. Cécile, ma fille, et je sais que bientôt toi aussi tu auras des idées et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille, moi je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Nous allons passer maintenant à la chronique littéraire qui a été préparée par Emmanuel. Un jour, trois livres qui proviennent du même éditeur cette semaine, à savoir les éditions Ixo. Et nous commençons par le dernier roman de Christian Jacques, Le grand voyant d'Héliopolis. Héliopolis fut la plus ancienne cité sacrée d'Égypte. Ce roman nous plonge au moment de l'élection d'Onis, soit un des pharaons de la 5e dynastie, sous l'ancien empire qui régna aux alentours de 2350 à 2320 avant notre ère. Alors que se prépare l'élection d'Onis, la vision du grand voyant Branir se trouble, faisant craindre la fin de l'âge d'or de l'Égypte pharaonique et la venue de dangers extrêmes pour la terre aimée des dieux. Avec ses cheveux grisonnants, son large front dégagé, ses yeux d'un bleu profond brillant d'une rare intensité, Branir impressionne ses interlocuteurs. Lui seul peut assurer la transmission d'un pouvoir fondé non pas sur les ambitions humaines, mais sur la règle d'harmonie de l'univers. Cependant, un opposant d'Onis a décidé d'utiliser les services d'un tueur libyen pour l'éliminer. Or, l'enjeu est capital, la préservation des valeurs sacrées qui font de l'Égypte une civilisation de lumière. Le grand voyant d'Héliopolis, c'est signé Christian Jacques et c'est publié aux éditions Ixo. Toujours aux éditions Ixo, un autre roman de Christian Jacques intitulé « L'alchimiste de Lyon ». C'est la 59e enquête de l'inspecteur Higgins que Christian Jacques a créé, qu'il fait vivre depuis plusieurs années maintenant. C'est au cœur du Vieux Lyon que John Purcell, passionné par l'alchimie depuis ses études à Cambridge, a caché son laboratoire secret. Là, il a réussi à produire un premier lingot d'or selon une méthode qu'il a consignée dans un cahier rouge. Cible de menaces de mort, il a prévenu la police qui n'a malheureusement pu que retrouver son cadavre. Aux enquêteurs lyonnais, Purcell avait précisé que si le pire arrivait, seul son ami Higgins pourrait faire toute la lumière. Ce dernier constate très vite qu'il a été empoisonné que peu avant le drame. Un scientifique, des financiers étrangers de haut vol, mais aussi un prêtre, ont tenu à le rencontrer. Et nous revoilà plongés dans une palpitante enquête de notre cher inspecteur Higgins. L'alchimiste de Lyon, de Christian Jacques, c'est toujours aux éditions Ixo et c'est ce même éditeur, Mireille Calmel, que nous avions eu l'occasion de rencontrer il y a quelques mois maintenant dans l'émission Passé-Présent, publie Morgane, Reine des Brumes. Nous sommes au VIe siècle avec... Fortigern, l'usurpateur du trône et son redoutable sorcier, l'armée des Saxons et des mages noirs déferle sur les terres armoricaines. Seule une alliance improbable entre Arthur, l'héritier légitime, et Morgane des Brumes, la fille de Fortigern, peut inverser le cours de la bataille qui s'annonce. Mais tandis qu'en Brocéliande, source de la magie blanche, on se prépare à l'affrontement, la main des ténèbres s'abat sur les druides, les créatures du petit peuple et le cœur même de Morgane. Voici la légende arthurienne revisitée, où Morgane n'est plus uniquement une sorcière malfaisante. Morgane, reine des brumes, c'est signé Mireille Calmel, et c'est publié aux éditions Ixo. Nous arrivons au terme de cette émission Historama. Je remercie Thomas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec Claude Nougaro qui en 1967 chantait « Ô Toulouse », une ode à sa ville natale.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Cernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit
ville rose. Je revois ton pavé, ô ma cité gasconne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuile? Au mon pays, au Toulouse, oh Toulouse. Oh,